ça toi, Béguisset, Péchiné, France Télécom, Orangina, Nantes, Testou, Palace Parfum, Métal Europe, Bayer, Arcelor.
De faire péter tout ça.
Vous êtes sur la clé des ondes 90.10 et sur internet lacdo.org. Il y a eu du mouvement ce lundi matin près de la préfecture de Bordeaux. Du mouvement et des mauvaises nouvelles, surtout pour l'usine de Ford Blanquefort, Ford Aquitaine Industrie. La venue du ministre Bruno Le Maire n'a pas amené des bonnes nouvelles. C'était même plutôt l'inverse, puisque Ford a annoncé préférer partir et fermer le site de Ford Blanquefort plutôt que de réserver la place pour le repreneur Ponche, qui est un Belge, une petite entreprise belge par rapport à la multinationale de Ford. Des mauvaises nouvelles qui sont venues après des mois et des années de combat du côté des Ford. Alors bien sûr, la situation n'est pas terminée, comme nous l'explique Philippe Poutou, qui a été interviewé. Mais vu la circonstance particulière, ce point chaud sera entièrement consacré à Ford. Avec une forme également particulière grâce à deux personnes qui sont avec moi dans ce studio, Joy et Luigi, que l'on remercie. Mais on s'écoute tout d'abord l'ouvrier Philippe Poutou et syndicaliste CGT.
Fermer une usine et se débarrasser complètement du site, comme ça Ford a la paix avec ça. Ça fait 10 ans que Ford essaie de fermer cette usine-là. On suppose que s'il y a une reprise, forcément ça engage Ford encore pour un petit moment, parce que ça veut dire assurer des volumes de transition, ça veut dire que quelque part ils auront un regard sur parce qu'il faudra qu'ils investissent. Enfin voilà, c'est tous ces problèmes-là. On a vu avec General Motors quand ils ont lâché leur usine à Strasbourg, Punch a repris, mais General Motors est resté lié à cette histoire-là encore pendant 5 ans, ne serait-ce par des engagements, des contrats signés, tout ça. Donc Ford, visiblement, ils veulent vraiment se débarrasser de l'usine pour de bon et ne plus en entendre parler. Donc on peut penser que c'est ça. Après, est-ce que le coût financier, qu'est-ce qui se joue vraiment là-dedans? Nous, on n'en sait pas plus que ça en réalité. Mais voilà, nous, on a bien compris que Ford veut se débarrasser du site. Et là, ils veulent. Et en plus, il y avait ce côté, ils ont tellement dit les choses dans ce sens-là que là, ça voudrait dire revenir en arrière. Et après, on peut supposer qu'il y a des dirigeants de Ford Europe qui considèrent, même personnellement, ne pas vouloir changer d'avis. Mais évidemment, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans la situation actuelle. Une reprise qui fonctionne, c'est obligatoirement quelque part des engagements de Ford pour assurer la transition. Voilà, sinon ça ne peut pas fonctionner. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg, donc avec Punch et General Motors. Et même des équipementiers qui étaient là par des contrats commerciaux, par des engagements sur plusieurs années. Donc Ford, s'il y a une reprise, ils sont un peu engagés pour au moins une petite période. C'est ça le problème.
Charge, ça
ben oui, parce qu'il y a une transition qu'il faut assurer, parce que Punch ne peut pas arriver avec un produit. Un repreneur, il ne prend pas des murs et des ouvriers. Un repreneur, il reprend quand même une activité. Et s'il n'y a pas d'activité, ça ne peut pas fonctionner. Et même si le repreneur, il a un plan sérieux, et ça on n'en sait rien, on n'est pas en capacité de juger, il aurait un plan sérieux dans les 3 ans, pas avant 3 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait entre temps? Et l'État, visiblement, c'est ce qu'il a expliqué, il explique à tout le monde, c'est que lui, il est prêt à y mettre de l'argent, mais c'est que derrière, il faut qu'il y ait une reprise. Si c'est pour mettre de l'argent, et puis derrière, et en plus, il a l'expérience de GMS, même le maire, il a cette expérience-là, c'est que ça marche pas trop, c'est quand même des coups tordus sur coups tordus, donc là, ils ont peut-être pas envie de revivre une reprise foireuse et qui montre que le gouvernement, il est pas capable de faire grand-chose. Là, nous, on sait juste, là, par contre, sur la question des emplois, on sait qu'il y a 300 collègues qui vont partir en pré-retraite, ou en tout cas qui veulent partir en pré-retraite. Le gouvernement, comme Punch, ils savent très bien qu'ils reprendront dans les 400 au maximum, parce que le reste partira. Donc, ils savent qu'ils sont sur un plan de reprise qui est quand même assez limité. Donc, le gouvernement, il a intérêt à sauver aussi la face. Et le dossier Ford, ça, c'est un dossier politique pour lui, un dossier important. Et c'est peut-être ça l'intérêt qu'on a en commun, c'est que le maire veut montrer qu'il est capable de faire des trucs quand même, qu'il n'est pas juste un ministre godillot. Et puis, d'un autre côté, nous, on a besoin de sauver nos emplois. Donc, voilà, donc c'est cet intérêt commun. Là qu'on aimerait bien mener jusqu'au bout, quoi.
Ciao, bella, ciao, bella.
Insomnie par Hervé Lecor. Marco ne dort pas. Il regarde au plafond les lueurs floues jetées par les persiennes comme une vapeur d'insomnie. Ou bien, se tournant sur le côté, les chiffres verts du radio-réveil. Compte à rebours, l'usine va fermer. Marco écoute la nuit, les craquements de la maison, la circulation au loin de la route, une voiture qui file, le rugissement d'une moto. Il épie son souffle à elle, à côté, qui lui tourne le dos. Il a peur de l'entendre s'arrêter, il a peur qu'un silence définitif s'abatte sur lui. Une nuit sans écho ni aucune lueur. Il pose sa main sur son bras, le sang se soulevait, chaleur douce, elle s'appelle Laurence. Avant, jamais, Marco n'a songé qu'il pourrait la perdre et voir tout s'effondrer autour de lui. Avant, Marco ne se posait jamais ce genre de questions. Marco se lève, il aime le froid du carrelage sous ses pieds. Il marche dans le couloir, son cœur bat plus vite, s'emballe presque. Il s'approche de la porte et l'ouvre doucement. 3 ans que la gosse est partie vivre sa vie. Mais il écoute quand même cette obscurité, comme si une respiration d'enfant allait y souffler. Il ne sait pas pourquoi il fait ça. Avant, en cas d'insomnie, il venait entendre cette respiration comme celle de la vie même. Marco boit au robinet de l'évier, se mouille la figure, la nuque, puis s'assoit à la table et regarde autour de lui les meubles qu'il a montés et installés lui-même et il repense à tout ce qu'il a fait dans cette maison pour l'embellir. Il sait tout faire. Tu as de l'or dans les mains, on lui dit souvent. Il répond que c'est rien, qu'il a appris tout ça avec son père, qu'il n'a aucun mérite. Il dit, mais au fond de lui, il est fier. La plomberie, le carrelage, la cloison cassée pour ouvrir la cuisine à l'américaine, la salle de bain, la terrasse, ils auront fini de payer tout ça dans 5 ans. Marco ne sait pas ce qu'ils feront dans 5 ans. Marco ne sait pas dans 5 ans s'ils vivront encore dans une maison à laquelle il a tant travaillé. Il ne sait pas s'ils pourront vivre dans cette maison. La paye de Laurence ne suffira pas, une paye d'infirmière. Il dit comme ça, lui, une paye. Son père touchait sa paye, ses jours de paye, il disait à sa mère, inquiète souvent à la fin du mois. T'en fais pas. Mais sa mère s'en faisait toujours du souci, du mouron, du mauvais sang. Elle tenait les comptes sur un petit carnet. Elle essayait de mettre un peu de côté, mais ce n'est pas toujours possible. Des fois, il fallait taper dans les économies. Une paye d'ouvrier. Va élever 4 enfants avec ça, sans te soucier. Les riches croient qu'avec les allocs, c'est du nan-nan. Connard de riche. Et les journalistes commentent le soir à la télé la hausse du pouvoir d'achat. Crétin de journaliste. Marco sent la colère taper dans sa poitrine. Il va avoir du mal à se rendormir. Avant Marco était un type souriant, le mec cool, si vous voulez. Avant, Marco repoussait ses inquiétudes d'un revers de la main comme on chasse une guêpe. Pas insouciant, non. On ne tue pas une guêpe parce qu'on la chasse. Avant, par exemple, Marco aimait son boulot. Il faisait ça de son mieux quand il bricolait à la maison. Il s'appliquait, il n'ignorait pas que son intelligence, son savoir-faire, son soin, son efficacité étaient exploités par la boîte, mal payée, jamais reconnue. Marco savait tout ça, il savait exactement sa place dans le mode de production capitaliste, comme on dit. Et déjà, Marco haïssait, méprisait les patrons, les darons, les actionnaires, toute cette nuée de profiteurs d'ici ou de l'autre côté de l'Atlantique. Sans parler de la plupart des cadres, des petits chefs qui veillaient au grain dans l'usine, qui pensaient ne pas être sous le marteau parce qu'ils s'étaient placés du côté du manche. Tout ce petit personnel aux ordres, sans lequel aucun pouvoir, aucune oppression ne saurait se maintenir. Avant, Marco pensait peut-être que savoir tout ça, éprouver tout ça, protégerait du mauvais sort. Avant, on arrivait à faire reculer l'ennemi, à le tenir en respect. Mais en respect de qui? De quoi? D'une parole? Des femmes et des hommes au travail? L'ennemi ne respecte rien. L'idée même doit le distraire beaucoup de ses calculs cyniques, comme une bonne blague pendant une pause café. Sauvage encravaté, barbare à sang-froid, prédateur sans état d'âme. Une armée de tueurs tranquilles s'est déployée sur toute la planète. Pas d'armes, mais des schémas, des courbes, des objectifs de profit cachés dans la mémoire de leurs ordinateurs portables, projetés sur des écrans pendant les réunions d'état-major. Il n'est plus vraiment nécessaire de tirer sur la foule pour la soumettre, il suffit de la fatiguer, de connaître son degré d'usure, de calculer son point de rupture, puis d'arracher, une fois qu'elle aura commencé à vaciller, son consentement. L'ennemi est en train de mener et de gagner une lutte des classes dont il a toujours nié la réalité. Marco se lève, il éteint la lumière et reste un moment dans le noir. Il pourrait se croire seul au monde dans une nuit qui ne cessera plus. Il y a des moments où la solitude l'enferme dans une cloche de verre sous une lumière artificielle, où les visages des autres sont flous et leurs voix si lointaines, malgré la sono, les slogans. Et la ville autour d'eux qui s'écoule sur les trottoirs en une foule aveugle et sourde et lente de consommateurs. Bienvenue à Zombieland, la nuit en plein jour, qui le suit comme son ombre parfois. Il frissonne, puis revient dans la chambre et se couche prudemment pour ne pas la réveiller.
Tu ne dors pas?
Non.
Qu'est-ce que tu fais?
Rien. Alors elle soupire.
Il faut dormir, je suis au bloc, de 8h à 11h. Bordel, avec ce con de Lambert.
Et nous on envahit le conseil régional à 10h.
Cassez-leur la gueule.
C'est pas l'envie qui manque, à eux et à d'autres. Si au moins ça servait à quelque chose, c'est comme si tu plantais ton chirurgien d'un coup de bistouri. Alors elle rit en silence.
Rien d'y penser, ça me fait bien du bien. Allez, on pionce.
Elle se retourne brusquement, il sait qu'elle va se rendormir aussitôt. Il se demande ce que ça lui ferait de gifler un président quelconque ou un ministre, si ça le soulagerait, ou même de le prendre par le col et de lui secouer la paillasse, puis de l'accrocher à un porte-manteau. Devant des caméras, tiens, comme le coup de la chemise arrachée, l'autre type escaladant une clôture pour échapper à ce que tous les chiens de garde et leurs maîtres avaient dénoncé sur le même ton indigné comme une intolérable violence. Il se souvient avoir applaudi devant son écran en découvrant les images ce soir-là. Parce que perdre son boulot, se faire lourder comme un malpropre, jeter comme un mouchoir usagé, gazé et matraqué par les flics comme ça arrive souvent, c'est pas violent sans doute. Ne pas savoir de quoi demain sera fait relève probablement de la belle incertitude du sport et s'en inquiéter témoigne d'un attachement archaïque au monde d'avant, comme ils disent. Un vrai boulot, de quoi vivre dignement, de quoi voir venir un peu. Parce que, pour ce qui est de voir venir, ils savent y faire. Profit maximum, fraude fiscale, fortune démente, dividendes garantis, corruption, complicité innombrable. C'est censé nous ruisseler sur la gueule le jour où la ville en leur prend de pisser par-dessus le bastingage de leur yacht. Et ils savent soigner les gardes-chiourmes, les directeurs parano, les DRH pervers, les journalistes des grands médias attachés à leur niche, tour à tour mordant ou rampant, selon qui s'approche. Marco sent son cœur battre follement de colère et d'impuissance, allongé dans le noir à côté de la femme qu'il aime, dans cette maison où ils ont essayé de construire une vie modeste et pas trop moche, comme beaucoup d'autres gens de peu et autres pauvres diables moins vernis. Ceux qui, pour le petit marquis élu président, ne sont rien, seulement des quidams corvéables qu'il faut tirer de leur paresse et jeter les uns contre les autres dans une compétition permanente, arbitrée par les patrons filmés par la télé. Il enrage Marco, et il aimerait comprendre pourquoi les camarades et lui se sentent si seuls par moments, à penser ce qu'ils pensent, à faire ce qu'ils font, lutter, encourager, entraîner les collègues, les copains. Il se sent encore du courage, ça oui, poussé par cette colère, cette révolte, cet écœurement, et puis cette conviction que le monde doit changer de base, comme dit la chanson, tant qu'il est encore temps. 6h37, chiffre rouge, Marco n'a pas dormi, il se lève, debout, il se sent mieux. Le jour se lève et filtre aux persiennes. Une folie de merle vocalise dehors. Aujourd'hui, ça ira, ça ira. Insomnie par Hervé Lecor, extrait du livre Fort Blanquefort, même pas mort.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous ne serons pas mon frère quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Mais nous ne serons pas mon frère dans la grande chaîne de la vie. Où il fallait que soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous ne serons pas mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous prierons aux mauvais jours, dans la haine et puis dans la guerre. Cherchez la paix.
Les pieds d'Arthur par François Morel. C'est incroyable comme les pieds d'Arthur grandissent. C'est incroyable comme ils n'en finissent pas de grandir. Son anniversaire, c'était il y a 2 mois, il a eu sa paire de Nike. C'est ce qu'il voulait. Ne pas avoir ses pompes qui coûtent un bras, c'était impossible à ses yeux.
Maman, toutes les copains en ont. Si je n'ai pas, je serai comme un pestiféré.
C'est ce qu'il m'a dit, un pestiféré. Ce qu'il ne faut pas entendre. Il a eu sa paire de Nike. Son père a eu beau lui faire un cours sur les conditions de travail déplorables pour les ouvriers, des usines sous-traitantes, toutes ces pratiques honteuses des multinationales. Il lui a parlé de même des sweatshops, ces ateliers de misère où les travailleurs sont des esclaves. Rien n'y a fait, il voulait ses Nike. C'est une question... Pardon.
C'est une question de vie ou de mort.
C'est ce qu'il m'a dit. Alors, quand il a quelque chose dans la tête, celui-là, bon, tout ça pour dire que c'est Nike, elles sont déjà trop petites. En 2 mois, il a pris 2 cm, si c'est pas plus. Il faisait du 40, il lui faut un grand 42. J'en ai même pas parlé à son père, ça va l'énerver. Il y a de quoi, faut dire. En plus, Alain, en ce moment, il n'est pas à prendre avec des pincettes. Il est inquiet, il a peur que son usine ferme. Penses-tu, je lui ai dit, avec les bénéfices qu'ils font, ils n'ont pas intérêt à fermer. Tu parles, Charles, qui m'a répondu.
Pourquoi papa, il t'appelle Charles ?
A demandé Charlotte. Alors on a quand même rigolé. La petite, elle, depuis qu'elle a vu les prodiges à la télé, elle s'est mise en tête de faire du piano. Son père et moi, on trouve ça bien, remarqué. Mais les cours, c'est pas donné, sa maîtresse l'encourage. Elle est douée, paraît-il, elle a de l'oreille. Elle a de qui tenir, Alain, c'est pareil. Sans avoir jamais appris, il arrive à retrouver les airs comme ça. Ça m'épate, ça m'a toujours épaté. La première fois que je l'ai vu, c'était chez des copains qui avaient un piano électrique. Et il a joué Ma Déclaration de Michel Berger, et puis My Way, et tous les grands succès de Paul Naref. Dans La Maison Vide, On Ira Tous au Paradis, Tous les Bateaux, Tous les Oiseaux, Love Me, Please Love Me. Je suis tombée dingue, amoureuse, illico. Un an et demi après, Arthur naissait. Prématurément, un petit bout de chou de rien du tout, était grand comme la taille de ses pieds actuels à peu près. C'est pour ça, je me dis aujourd'hui, il va bien, il fait du foot, il a des copines, il se débrouille bien en anglais, en histoire géo. Quand je vois ses grands pieds et que je repense à l'inquiétude qu'on a eue les premiers mois de sa vie, je me dis que tout ça, c'est des péripéties, que ça va forcément là s'arranger. Comme dit Alain, tout finit par s'arranger dans la vie, même en mal. Je ne sais pas pourquoi en ce moment il est pessimiste. Une boîte de vitesse dans une voiture, pourtant c'est indispensable, je ne vois pas pourquoi on fermerait l'usine. Quand je dis ça à Alain, ça a l'air de l'énerver encore plus. Ce matin, Charlotte m'a dit que quand elle sera concertiste, elle ira dans le monde entier et qu'elle nous emmènera avec elle. En attendant, ça tombe mal, cette histoire de Nike. Il va bien falloir pourtant lui racheter une paire à Arthur. Il ne peut quand même pas aller au lycée en chaussons. Les pieds d'Arthur, par François Morel. Rock ouvrier, Rose Béton. Jour de victoire par Serge Chalandon. Ne fermez pas la fenêtre, s'il vous plaît. J'avais dit ça comme ça, doucement, un simple murmure, mais Svetlana m'a foudroyé. L'infirmière, c'était elle, elle avait tous les droits sur cette pièce et le malade qui l'occupait. Le nombre d'oreillers, leur position sous sa tête, la couverture en plus, la couvre-lit en moins, c'était elle. Cette chambre d'agonie était devenue la sienne. Elle décidait du jour et de la nuit, elle qui allumait le plafonnier ou la lampe de chevet, elle qui s'emparait de la chaleur ou du silence, elle qui avait confisqué la télécommande de la télévision.
« Il y a trop de bruit dans la rue »,
a protesté Svetlana. « Il n'y en a pas assez », j'ai souri. Cela faisait 10 ans que la vieille Moldave s'occupait de mon père. Il l'aimait bien, elle le supportait, elle s'en débrouillait comme l'attente d'un parent arrivé à son crépuscule. Elle et moi, c'était autre chose. J'étais le fils en trop, l'écervelé, l'inconscient qui servait un verre de blanc frais au mourant, celui qui lui tendait une cigarette pour une seule bouffée. J'étais l'empêcheur de mourir tranquille, qui ouvrait les rideaux quand le soleil le réclamait, qui remontait l'hiver avec une boule de neige pour qu'il y frotte ses lèvres de vieil enfant, qui lui parlait de l'usine encore et encore, même lorsqu'il fermait ses yeux.
Vous les fatiguez, Henri.
Je le distrais, Svetlana. Depuis le début de la soirée, la ville chavirait sous la Coupe du Monde de football. Bonheur, joie, liesse, à la radio, à la télé, les journalistes puisaient dans leur dictionnaire pour trouver un mot plus haut que l'autre, de Bordeaux à Lyon, de Paris à Clermont-Ferrand, de Bayonne au plus petit bourg de Mayenne. Les familles étaient dans les rues, les boulevards chantaient, les chemins de campagne, les balcons bourgeois, les cités, les terrasses, les bords de mer, les villages de montagne, une joie bruyante, insouciante, de klaxons, de voitures, de rires de femmes, de cris d'hommes, et de hurlements enfantins. « Je veux qu'il écoute ça », j'ai dit. Elle a lâché la poignée de la fenêtre et puis haussé les épaules avant de quitter la pièce. Je me suis assis sur le lit, penché sur mon père. Il fermait les yeux, respirait faiblement. « Tu entends ? La ville devenue folle ?» Il a hoché la tête, son maigre sourire. « Ce matin, je lui ai dit que l'usine vivrait, que le gouvernement avait été ferme et que Ford renonçait à quitter le site.
Ferme ? Ferme comment ?
A demandé mon père. Je me suis rapproché de son oreille, il avait les yeux fermés, alors j'ai fermé les miens. Deux aveugles lumineux, et je lui ai raconté ce qu'il voulait croire, ce que j'aurais aimé entendre. Ford avait décidé de lancer la nouvelle boîte de vitesse chez nous, à Blanquefort.
La 8F Mid ?
Il a souri, les yeux clos. Il connaissait, il ne connaissait que ça. Enfin, il ne me racontait ni les princes ni les chevaliers, mais la mécanique. Son héros s'appelait Henri Despasses, importateur exclusif de Ford en France. C'est lui, en 1913, au 63 de la rue Fondodège, qui avait ouvert le premier atelier de montage français de la Ford T. Francis, mon grand-père, avait travaillé pour Despasses, boulevard Albert Ier, avec 3 copains d'atelier. Ils avaient même fait le chemin de Paris jusqu'au stand 21 du salon de l'automobile pour voir la Ford T, leur bordelaise souriant aux bourgeois qui n'osaient approcher le diamant.
Henri ?
Je me suis approché. Mon père m'avait donné tout à la fois les prénoms de Ford et de Despasses.
Ils ont trouvé l'argent ?
Il avait ouvert les yeux. Et déjà, son regard était ailleurs. L'argent, pourquoi ?
La comptabilité.
J'ai souri à mon tour. Il parlait de la comptabilité des chaînes, passer de la boîte 6F35 à la nouvelle technologie, des millions d'euros. Oui, bien sûr, tout a été réglé. Il me regardait. Je crois même qu'on va pouvoir continuer. La 6F15 et syndicats ont parlé de 150 000 unités pour l'Europe. Il a levé une main, à peine, sa paume détachée du drap. Il me regardait toujours.
Mais c'est sûr, c'est certain, l'usine est sauvée.
Je me suis levé, j'ai ouvert les fenêtres, plus encore. Tu n'entends pas ? La France fêtait le sauvetage de mon usine. C'est ce que je lui avais dit. Et l'honneur de mon grand-père, ouvrier chez Despasses, de mon père, mécanicien auto à l'âge de 17 ans, l'honneur de son fils, entré à Blanquefort en 1974, un an après son inauguration par Chabandelmas et Henri Ford II, l'honneur des 862 salariés en lutte qui seront bientôt rejoints par 2000 autres, comme dans les années 2000, l'honneur du grand parking qui va être de nouveau plein à craquer, l'honneur de tous les gars au pied de la chaîne de montage, l'honneur des compagnons des zones de production, de montage, du traitement thermique, l'honneur des régleurs, des contrôleurs, du service achat, des matières première, l'honneur de tous ceux qui croient que le travail est le lieu de la dignité, l'honneur de nos aînés qui montraient leur badge Ford pour rassurer le banquier, l'honneur de ceux qui croyaient l'ovale bleu un talisman à vie sans savoir qu'Henry Ford avait dit « Les hommes travaillent pour deux raisons, le salaire et la peur de perdre leur emploi. » L'honneur des femmes et des hommes qui ont refusé le salaire de la peur.
« J'entends »,
a murmuré mon père. Il savourait les cris, les chants, les sifflets, les pétards. Une corne de brume l'a fait sursauter. Il a chuchoté mon front contre le sien.
On parle à la télé ?
J'ai allumé le poste. Je redoutais le retour de Svetlana. J'ai mis une chaîne de sport, la première, n'importe laquelle. Les Champs-Élysées étaient embrasées. Des dizaines de milliers de bras levés, sourire victorieux, une France d'avant les tourments. Mon père a ouvert les yeux. À peine j'avais coupé le son, il a observé l'écran, la liesse, cet enfant en gros plan, sur des épaules adultes. Le visage de papa était douloureux. J'ai éteint la télévision, il boudait. Je connaissais bien ce visage, il avait cette même moue lorsque j'étais enfant et que je n'arrivais pas à répéter les mots savants qu'il m'apprenait. Il avait refermé les yeux, il boudait, ses lèvres mortes retombées. « Ça va, papa ?» Vague haussement d'épaule, sa voix épuisée d'âge et de tabac.
« Il n'y a pas de drapeau, pas de bande syndicale. Il se croit où ? À un match de foot ?»
Je lui ai caressé les cheveux. « Ah ça, c'était Paris, ils sont comme ça à Paris. Dommage qu'ils ne puissent pas se lever, venir jusqu'à la fenêtre, parce que chez nous, place Péberlan, il n'y a que ça des drapeaux rouges, de la joie ouvrière, de la fierté, de la dignité, de la beauté. » Il a ouvert les yeux une dernière fois.
« Alors, on a gagné, mon fils ?»
Je lui ai pris la main. « On a gagné, papa. » Et puis, il s'est rendormi, le sourire aux lèvres. Lorsque Svetlana est arrivée, je prenais mon sac. Elle avait les yeux mauvais.
« Vous ne me l'avez pas fatigué, j'espère. »
Je l'ai embrassée sur la joue. Un geste comme ça, furtif, inhabituel, le baiser d'un papillon. Elle a haussé les épaules en faisant du vent avec les mains. Je crois bien qu'elle a ri. Je suis sorti dans la foule. Les joues étaient peintes en tricolore. Des gamins portaient des maillots aux couleurs de l'équipe de France. La ville dansait et chantait la victoire jusqu'au vertige. Alors voilà, j'ai plongé au milieu de cette joie qui n'était plus la mienne. J'ai marché jusqu'à la cathédrale. J'ai ouvert mon sac et enfilé le maillot blanc des copains de Ford sur ma chemise. Luttons tous ensemble pour sauver les emplois. Et puis je suis monté sur le socle de la statue de Chaban, point levé. Un enfant m'a imité, sa mère avec lui, puis un homme qui passait, puis un jeune, puis un autre, etc., etc. Jour de victoire par Serge Chalandon.
Mais nous, on va continuer la mobilisation parce que nous, notre objectif, c'est sauver l'usine, c'est sauver les emplois et c'est permettre à nous de ne pas nous retrouver au chômage. Visiblement, on a un intérêt commun. Là, c'est un peu le côté particulier de la chose. C'est qu'ils ont un intérêt à sauver l'usine du côté du gouvernement, du côté des collectivités territoriales. Et nous, on a un intérêt aussi à sauver cette usine-là. C'est certainement pas pour exactement les mêmes raisons, mais là, on a un intérêt commun. Eux, ils disent qu'ils vont se battre. Ils vont mettre la pression sur Ford, ils vont même attaquer l'image de Ford. Ils considèrent que ce que fait Ford, c'est inacceptable. Donc, ils vont le faire. Ben, nous, de notre côté, on fera la même chose, mais avec certainement un style différent. Mais donc du coup, on se retrouve dans une situation un peu particulière, c'est qu'on est tous amenés à se battre pour que Ford donne les moyens qu'il y ait une reprise. Et donc, ben, le combat, nous, on va le mener.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé. Wagons immobiles, tours abandonnées. Plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi. rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge. Avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or.
Vous êtes sur la clé des ondes 90.10, c'est notre point chaud qui se termine ainsi, point chaud spécial, vous l'aurez compris, en soutien et avec les Ford Blanquefort, nous avons pu et vous avez pu entendre trois textes grâce à l'aide précieuse de Joy et Luigi qui sont dans ce studio. Les trois textes sont Insomnie d'Hervé Lecor, Jour de victoire de Sorge Chalandon et Les pieds d'Arthur de François Morel, trois textes à retrouver dans ce petit livre fait en soutien à l'association de défense des emplois de Ford et bien sûr du coup des ouvriers de Ford. Le livre est aux éditions Libertalia et s'appelle Ford Blanquefort, même pas mort. Bien sûr, nous aurons l'occasion de reparler des Ford dans les prochains jours et les prochaines semaines puisque nous suivons depuis le début ce dossier. C'est bien normal, à la clé des ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Générique et kaléidoscope tout de suite.
Chantier naval du Havre de la Ciotat, Adelsofen, Celatex, Michelin, Epeda, Ludanon, Marks & Spencer, les chaussures Bata, Levis, Giat Industries, Airlib, Reims Aviation, Daewoo, Alcatel, EADS Aéronautique, Avantis, ACT, Matra, Grimaud Logistique, Alstom Saint-Ouen, Béguesset, Péchinet, France Télécom, Orangina, Nos, Testou, Palace Parfum, Métal Europe, Bayer, Arcelor.
De fait.